Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Alors ça y est, le Festival de Cannes est terminé, les vacances peuvent commencer. Et justement à cette occasion, on a décidé de vous parler des films français qui s'inspirent de cette thématique estivale. Les vacances, le soleil, la liberté. Alors comment construit-on un film de vacances? À quel code répond-il? Que raconte-t-il aussi de notre société? Je vous dis tout ça dans un instant. 14h30, les films de ma vie. Aujourd'hui, c'est Chiara Mastroianni qui a accepté de répondre à notre questionnaire de Proust version cinéma. Alors qu'elle fait l'une des voix françaises du dernier Pixar sur Disney+, ça s'appelle Luca, et on est sur la côte italienne en vacances donc. Quel est par exemple son premier souvenir de cinéma à Chiara Mastroianni, ou plutôt son premier traumatisme?
Eh bien, je crois que c'est Bambi. Je pense que c'est le premier. On m'a fait sortir avant la fin, ou d'ailleurs très peu de temps avant le début, après le début, je pense. J'étais traumatisée. Hey. Traumatisée. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu en entier, hein. Bambi toujours pas. Hein.
Comme beaucoup d'enfants.
C'est très étrange comme choix de Bambi, franchement.
Voilà, Bambi qu'on nous cite souvent, hein, pour découvrir la suite des souvenirs cinéma de Chiara Mastroianni. Rendez-vous dans une demi-heure. Et puis juste après, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre des films sortis en salle mercredi dernier, notamment Kaamelott, dont on a déjà parlé dans l'émission. Alors, vaut-il le coup? Nous parlerons aussi de Bonne Mère, deuxième long-métrage d'Avzia Herzi, présenté à Cannes, et de deux films sanguinolents, Bloody Milkshake, Milkshake sanglant, si on le traduit en français, et Spirale, le neuvième volet de la saga Saw. Voilà pour le programme de votre Clap, qui démarre donc maintenant. On part en vacances sur grand écran.
Europe 1, le récit.
L'un des films de vacances les plus célèbres, et c'est l'un des premiers d'ailleurs, c'est Les Vacances de Monsieur Hulot, signé Jacques Tati. L'histoire de Monsieur Hulot donc, pipeau bec et pantalon trop court, qui part en bord de mer, mais qui détonne au milieu des autres vacanciers, à cause notamment de sa maladresse.
Oh, quel ravissant spectacle, n'est-ce pas, cher monsieur? Justement, j'admirais la mer. Ces rochers, ces petites voiles blanches, tout ça, c'est vraiment joli. Qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas? C'est Saint-Nazaire? Vous voyez au loin, là-bas, de ce côté?
Là-bas.
Pour moi, les vacances au bord de la mer sont toujours très agréables et reposantes. Malheureusement, il y a trop de vent. On n'est jamais bien coiffé, n'est-ce pas?
À l'époque, le film questionne aussi cette ruée vers la mer, sorte de passage obligé pour bon nombre de vacanciers. Tati en fait une gentille satire de cette France qui découvre les congés payés. Écoutez-le au micro d'Europe 1.
Étant donné que je ne fais jamais exprès, en cherchant les moyens faciles pour faire rire, il est certain que lorsque vous entendez un rire d'une petite fille de 10 ans ou 12 ans aujourd'hui, c'est d'une grande pureté. Je reste très jeune, enfin intérieurement, je parle.
Alors Monsieur Hulot n'est pas le seul à être quelque peu inadapté aux vacances d'été. Ce thème est un grand classique du cinéma. Si on avance un peu dans le temps pour atterrir en 1985, on pense à L'Effronté avec la très jeune Charlotte Gainsbourg, alors âgée de seulement 13 ans, l'histoire d'une jeune fille maladroite qui s'ennuie pendant ses vacances.
Si tu bouges tout le temps, j'y arriverai jamais.
T'es sûr que c'est comme ça?
C'est quoi que t'as sur la tête? Une crotte de chien?
Une natte.
Ah, quand vous aurez fini, vous m'en ferez une aussi, hein Léon?
Mais c'est pas comme ça! Tu me dis que tu sais, puis tu sais pas! Je suis sûre que c'est pas comme ça! C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison! On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau! Je me demande comment vous pouvez vivre ici! Tout est moche ici, tout est petit! C'est petit, c'est moche et c'est tout! Salut!
Premier rôle principal et première consécration pour Charlotte Gainsbourg. La critique est dithyrambique et le film devient très vite culte. Il obtient même le prix Louis de Luc et Charlotte Gainsbourg, le César du meilleur espoir.
J'étais tétanisée à l'idée de monter sur scène et j'étais tellement émue. Mon père m'avait dit, surtout si tu l'as pas, tu pleures pas. Il avait loué une limousine pour l'occasion et j'étais gênée qu'il en fasse autant. Mais aujourd'hui, je suis tellement touchée parce que ça avait beaucoup de charme et c'était comme ça qu'il témoignait de l'amour, en fait. Je réalise que c'est un film qui parle encore aux jeunes que ça concerne, en fait. Des adolescentes de 13-14 ans peuvent se retrouver, peuvent retrouver la colère, la maladresse, le mal-être. C'est vraiment propre à l'enfance et à la fin de l'enfance, en fait. Je crois que c'est pour ça que ça peut plaire encore.
L'été, c'est aussi la période des premiers amours et de la sensualité. On ne compte plus les films sur les premiers émois pendant ces vacances. Dans les années 80 et 90, certains réalisateurs en font même leur spécialité. C'est le cas de Romer avec Conte d'été, Le genou de Claire ou encore Pauline à la plage.
Tu as déjà été amoureuse ?
Oui.
De qui ?
D'un garçon.
De ton âge ?
Non, d'un vieux.
De quel âge ?
12 ans. J'en avais 6, c'était très vieux pour moi.
Et c'est tout ?
Oui.
Non, il se fiche de nous.
Non, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure.
Ah oui ? Qu'est-ce que tu penses ?
Ben moi, tu vois, je ne m'emballerais pas pour quelqu'un comme ça sans le connaître. Il faut apprendre à connaître les gens pour les aimer.
Ah oui, mais les aimer d'amour ou d'amitié ?
Ben les deux, c'est pareil.
Ah non.
Et pour ça, si.
Ah non, justement. Bon, ben si on allait danser.
Notez d'ailleurs que si la sensualité est présente dans presque chaque plan de ces films d'été, la sexualité, elle, reste peu montrée à l'écran. D'autres cinéastes, en revanche, n'hésitent pas à raconter l'été comme une période propice au plaisir du corps, et ce, de manière assez frontale. On pense notamment à Abdelatif Kechiche et son Mektoub My Love, l'histoire d'Amine, étudiant en cinéma, qui tout l'été va observer son cousin et sa bande d'amis se livrer au plaisir de la séduction.
Parlons de toi.
Hein ?
Pourquoi tu veux pas dire ce que t'as fait en rentrant ? À moi, tu peux me le dire.
De quoi ?
Ce que t'as fait avec elle. Mais tu peux me dire si t'es rentré avec elle ou pas ?
Ben oui, mais vous m'avez dit, de toute façon.
Non, mais raccompagner, d'accord, mais après.
Ben, on est parti de la boîte, on a marché, je suis à la plage. Mmh. Ben, je l'ai ramenée à son hôtel et...
Mmh. Pourquoi ? Pour rien. Et elle fait quoi dans la vie ?
Elle est étudiante en littérature.
C'était bien, en tout cas ?
Ouais. Ouais, elle est gentille, on a beaucoup parlé, littérature, cinéma.
Ouais. Ah ouais. Toi, tu vas en boîte, tu rencontres une fille en boîte pour lui parler littérature et cinéma, c'est ça ?
Comme tu sais bien.
Le film sera présenté en compétition à la Mostra de Venise et aura même une suite présentée à Cannes il y a 3 ans. Elle n'est toujours pas sortie en salle. Il faut dire qu'il s'agit de 3h30 ou presque, enfermée dans une boîte de nuit, avec une scène de sexe oral dans les toilettes pour laquelle l'une des actrices affirme ne pas avoir donné son accord. Changement d'ambiance, les vacances d'été, c'est aussi bien sûr pour les enfants et notamment les colonies de vacances. C'est grâce à ce sujet très français que le duo Toledano-Nakache s'est fait connaître du grand public avec Nos Jours Heureux, l'histoire d'une bande de monos un peu dépassés face à des gamins très attachants mais complètement survoltés. Au casting, Marie-Lou Berry, Omar Sy ou encore Jean-Paul Roux.
Je me suis quand même rappelé que sans cette colonie, il y a 15 ans, j'aurais jamais rencontré celle qui partage ma vie aujourd'hui.
Putain, mais qu'est-ce que tu fous, bordel ? Tu me chies dans les bottes, Vincent ! Mais j'en ai ras le cul de chier, merde !
Non, mais je l'ai déposé, t'étais en retard.
Non, mais t'es marrant, toi ! Tu sais qu'on a eu du bol de pas se faire enlever la voiture, hein ?
Arrête, enfin, chérie, ça va pas ou quoi ? Elles sont où, les clés de voiture ?
Elles sont dans ton cul !
Non, je les ai, ça.
Mais c'est une ceinture de merde !
Fais attention, parfois tu es vulgaire.
J'en ai rien à foutre, voilà.
Et justement, le duo de réalisateurs Toledano-Nakache nous racontait au micro d'Europe 1 comment ils se sont inspirés de leurs propres souvenirs pour écrire ce film.
Justement, on a toujours mis un point d'honneur avec Olivier, justement, à ne pas rentrer dans qui a eu l'idée de quoi, parce que sinon, on ne peut plus réaliser à deux. Donc, en fait, on a toujours tous les deux eu l'idée de tout, et on fait toujours tout à deux.
Mais je pense qu'en plus, c'est la vérité. Je pense qu'on a eu ensemble au même moment, parce qu'Éric et moi, on connaît bien le thème des colonies de vacances, puisqu'on y a évolué depuis qu'on est tout petit.
Absolument. On s'est rencontrés dans une association qui faisait partir des gamins donc, l'été, et le hasard a même voulu qu'on ait poussé le bouchon jusqu'à tourner le film dans un lieu où on a été nous-mêmes directeurs de colo.
Nos Jours Heureux qui attire 1,5 million de spectateurs en salle et relance la mode des films de vacances. Suivront notamment Sale Gosse ou Les Vacances du Petit Nicolas avec Cadmerat.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances.
C'est un tournage extraordinaire parce qu'on a tourné pendant les vacances. Mmh. On était sur l'île de Noirmoutier. Il n'avait pas vu un été aussi beau depuis 1952. Il y a toujours des records. Et c'est vrai qu'il a fait très très beau. Et quand il fait beau dans cette région, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Parce que les plages sont magnifiques. Mmh. Il y a des petites maisons à tomber par terre sur la plage. Enfin, c'est très très beau, Noirmoutier. Moi, je ne connaissais même pas. Et donc, ça a été un tournage très agréable. L'équipe était pratiquement la même que sur le premier film. Ce qui fait qu'on est presque des copains.
Demain, on s'en va et après, on ne se reverra plus jamais.
Non, mais c'est pas une fatalité.
C'est quoi la fatalité ?
C'est quand la vie nous impose quelque chose qu'on veut pas. Comme manger des betteraves, par exemple. Mais nous, on peut faire quelque chose.
Quoi?
On va partir dans le vieux fort, au bout de la forêt. Comme ça, personne ne trouvera et on pourra vivre tranquille et très heureux.
Bah, l'amour, bah oui, on va tous se reconnaître, hein. Les grands, les petits. Je sais pas, ça commence à partir de 11-12 ans, quoi. Les premiers frémissements, les premiers frissons. L'amour qui rentre dans votre vie, souvent à la plage d'ailleurs, ça se passe souvent en vacances, c'est vrai. C'est vrai, oui, oui.
Le premier baiser échangé.
Oui. Bah, moi, c'était hier d'ailleurs, tiens.
Il faut dire que les films de vacances sont presque un sous-genre à part entière en France, et ce depuis des années. Sans doute encouragé par des succès populaires qui demeurent cultes aujourd'hui encore, comme par exemple Les Bronzés.
Jean-Claude Duss de Paris. Jean-Claude Duss. Disons, je suis embêté, j'ai pas retrouvé ma valise.
C'est pas grave, on va vous arranger ça. Et elle, qu'est-ce qu'elle a comme malheur?
Rien, moi ça va. Dis donc, je vous ai amené le soleil dans les bagages.
Ah, ça. Heureusement que vous avez pas compté sur moi, hein. Parce que sinon, il fera un sale temps. Non, c'est parce qu'elle a dit je vous ai amené le soleil dans les bagages. Alors je dis heureusement que vous n'avez pas compté sur moi, parce que sinon il fera un sale temps. Comme j'ai paumé mes bagages.
Ah ouais, c'est drôle.
Écoutez Patrice Lecomte revenir sur ce succès complètement fou au micro d'Europe 1.
Quand je rencontre des journalistes qui essayent de me faire dire « Bon, Les Bronzés, c'est le passé, on oublie ça », je dis « Mais vous rigolez, c'est des films qui ont été tellement importants pour moi ». On a fêté il n'y a pas longtemps les 40 ans des Bronzés. 40 ans, vous vous rendez compte? C'est inimaginable, quoi, parce que il y a 40 ans, on tournait Les Bronzés, on était dans un état de pas d'inconscience, mais d'insouciance en tout cas, qui faisait qu'on, à l'époque, donc il y a 40 ans, on ne pouvait pas imaginer une seconde que ces films deviendraient ce qu'ils sont devenus.
Et si le cinéma français est aussi friand des histoires de vacances d'été, c'est sans doute parce qu'elles sont assez longues dans notre pays. Il n'est pas rare qu'un salarié prenne 3 semaines, alors qu'aux États-Unis, par exemple, les Américains ont en moyenne 15 jours de vacances par an. Les films centrés sur le sujet sont donc moins nombreux. On pense quand même à un film signé d'un certain Steven Spielberg, plutôt angoissant. On est à Amity Island, des étudiants insouciants font la fête sur la plage lorsque soudain... Les Dents de la Mer sort en plein été 1975 et rencontre un succès mondial, notamment en France, avec plus de 6 millions d'entrées. C'est d'ailleurs suite à ce succès que les studios vont se mettre à sortir des blockbusters aussi l'été, alors qu'avant c'était une période où peu de films arrivaient en salle. Et pour achever ce récit, je voulais quand même dire un mot d'un des films de vacances qui nous a le plus marqué ces dernières années. Ça se passe en Italie, je parle de Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, avec notamment Timothée Chalamet. L'histoire d'un jeune Américain en vacances en Italie avec ses parents et qui va découvrir son homosexualité.
Pourquoi tu me dis tout ça?
Ce qu'il fallait que tu le saches.
T'essaies de me dire ce que je crois?
J'aurais dû rien dire.
Fais comme si t'avais rien dit.
Alors on continue à se parler, mais pas entièrement.
Je veux dire qu'on ne peut pas parler de ces choses-là.
Le film sera multinommé au BAFTA et aux Oscars, une suite est d'ailleurs annoncée. Alors comment écrit-on un film de vacances? Quels sont ses codes? Quels sont aussi les clichés et les écueils qu'il faut éviter? Pour en parler, j'accueille dans un tout petit instant le réalisateur Guillaume Braque, qui a sorti mercredi dernier « À l'abordage, une histoire de vacances ». Mais on ne pouvait pas parler de ce thème sans écouter bien sûr un extrait de la bande originale « Des Bronzés », « Sea, Sex and Sun », signé Serge Gainsbourg. Vous êtes à l'écoute de Clap sur Europe 1 et on parle cinéma ensemble tout l'été.
Le soleil au zénith, 20 ans au 18, 17 ans à la limite, je ressuscite. au zénith. Me surexcite tes petits seins de bakélite qui s'agitent.
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap, peut-être sur la route des vacances d'ailleurs, si c'est le cas on pense à vous. Et aujourd'hui justement, on parle des vacances sur grand écran. Et pour poursuivre notre réflexion, j'accueille maintenant le réalisateur Guillaume Braque. Bonjour.
Bonjour.
Réalisateur du film À l'abordage, qui est en salle depuis mercredi dernier. Feel Good Movie, que je conseille à nos auditeurs d'ailleurs, surtout les plus jeunes, et qui raconte l'histoire justement de deux potes de banlieue parisienne qui vont partir en camping à l'autre bout de la France, sur les traces d'une jeune fille que l'un des deux a rencontrée la veille et dont il est tombé amoureux. Sauf que voilà, ils partent en covoiturage avec Édouard, dit Chaton, c'est le surnom que lui donne sa maman, fils de bonne famille, la voiture a un problème, ils vont devoir passer plusieurs jours ensemble dans un camping. Et voilà, c'est la rencontre de deux mondes, un grand classique, mais qui une nouvelle fois fonctionne bien.
Je vois que la meuf, elle est dans ma tête comme ça, c'est qu'on a passé une soirée dans le parc, mais...
Est-ce qu'à votre avis, elle sera contente de vous voir?
Je l'espère.
Excusez-moi, vous êtes qui, là?
Bah, c'est nous pour le Blablacar.
Ben, j'attendais deux filles, là, Félicia et Sherifa.
Ouais, c'est nous.
C'est... Les femmes, c'est pas facile, mais... Parce qu'il faut se faire désirer. Quand on se rend pleinement disponible, ça marche pas, quoi.
T'es un galérien comme moi, frère.
Galérien, le mot est un peu fort.
Si, t'es un galérien, mec.
J'ai crié.
D'abord, Guillaume Braque, au départ du projet, c'est quoi l'envie? Est-ce que c'est l'envie de faire un film de vacances? Est-ce que c'est l'envie justement de raconter la rencontre entre deux mondes? Est-ce que c'est tout ça?
Oui, bah c'est en effet d'abord le désir de raconter la rencontre avec ce qu'il peut y avoir de friction et à la fois aussi de beauté entre deux jeunesses différentes, hein, une jeunesse on va dire un peu privilégiée qui part en vacances, voilà, qui appartient à un milieu social relativement aisé, et puis les deux protagonistes qui eux dont on devine qu'ils sont originaires de la banlieue parisienne et qu'ils n'ont pas du tout cette culture-là des vacances et comment voilà ces jeunes-là dans ce contexte, dans cette bulle de l'été, sont amenés à leur chemin se croise et ça provoque des étincelles, mais ça provoque aussi quelque chose d'assez beau voilà, qui dépasse les clivages sociaux. Voilà.
Justement, vous dites cette bulle de l'été, c'est ça, ce film, il s'inscrit dans cette longue lignée de films de l'été, justement. Il y a le camping, il y a les amours d'été, il y a la piscine du camping, il y a le canyoning, il y a le petit cours d'eau. Ça, c'était, voilà, ces codes-là, vous aviez envie quand même de les mettre dans ce film ?
Oui, bien sûr. Bah, bien sûr. À partir du moment où, voilà, où on raconte comme ça quelques jours de vacances, eh ben, allons-y, quoi. Racontons ces quelques jours de vacances. Après, bien sûr, j'avais conscience de m'inscrire dans une tradition, enfin, qui remonte à loin. Enfin, on pense, par exemple, aux vacances de Monsieur Hulot, quoi, qui est, par exemple, de Jacques Tati, hein, où il y a à la fois ce plaisir ludique des activités balnéaires, et puis à la fois, quand même, cette hiérarchie sociale qui est présente dans cette petite station balnéaire et oui des rapports de classe et c'est assez passionnant de voir comme ça comment les choses se dérèglent et s'assouplissent aussi voilà.
Oui, c'est ça, c'est souvent des films dans lesquels justement on parle des rapports de classe, c'est ça qui est amusant, c'est-à-dire que c'est des films en apparence légers puisqu'il y a le soleil, il y a la mer, etc., mais sauf qu'ils racontent aussi beaucoup de choses de notre société, souvent ces films
de vacances. Absolument, moi ce que je trouve passionnant c'est de raconter en creux, enfin d'une manière un peu moins frontale mais qui n'en est parfois pas moins cruelle, notre société. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est d'amener progressivement les personnages à une sorte peut-être d'état de grâce, de plénitude que l'été permet, en fait. Et je crois que c'est aussi pour ça que je suis très attaché à filmer cette saison. C'est que finalement, à un moment donné, il y a une forme d'apaisement, de joie, de plénitude, je crois, qui appartient vraiment à cette saison-là. Ouais.
Vous aviez fait il y a quelques années un documentaire qui s'appelle L'île au trésor, qui se passait sur une base de loisirs à Cergy. Ça vous a inspiré? Vous en êtes servi aussi de ce que vous aviez vu là-bas pour construire ce film?
Alors, je pense que ça, en effet, ça a été un film vraiment important pour moi. Ou d'ailleurs, c'est un peu presque le symétrique de ce film-là, puisque à Cergy Pontoise, je filmais ces jeunes qui, en fait, ne partent pas en vacances et comment ils vivent comme ça l'été tout près de chez eux, mais quand même dans une sorte de simulacre de station balnéaire, mais à deux pas de chez eux. Et puis là, cette fois-ci, c'est quand même c'est l'aventure, c'est le départ. En gros, il y avait l'aventure près de chez soi et puis l'aventure avec le déplacement, presque un début de road movie. Et ça m'a aussi beaucoup nourri, je pense, enfin plus que sur le fond, ça m'a nourri aussi en termes de mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'abordage, une façon d'inscrire les protagonistes de la fiction dans un décor complètement vivant, le décor du camping au mois d'août, avec une figuration naturelle, quoi, avec une mise en scène qui laisse la part belle au cadre assez large, qui réunit les personnages, qui permet de montrer les corps, etc., des acteurs. Ça, je pense que ça a été beaucoup nourri par ce tournage documentaire 3 ans avant, enfin, 2 ans avant.
Justement, vous parlez de mise en scène. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des clichés qu'on s'interdit quand on sait qu'on va reprendre cette grande histoire du film de vacances? Est-ce qu'il y a des choses où on se dit non, ça je peux pas y aller parce que ça va vraiment être trop cliché?
Non, je crois pas. Par exemple, typiquement là dans l'abordage, il y a une scène qui est très importante dans le film, qui est une scène de karaoké. On pourrait dire c'est une scène de cliché, mais en fait quand on fait un film, il faut avoir une croyance, quoi. Il faut avoir une croyance que chaque situation, même vue, revue, filmée 1000 fois, peut être réinventée. Et puis voilà, ça c'est par la grâce des interprètes, par la grâce du décor, par la grâce de la mise en scène. Enfin, je pense qu'il faut pas avoir peur. En fait, c'est comment on filme quelque chose, comment on regarde une situation, peu importe si elle a déjà été filmée 1000 fois. Quoi.
Oui, et justement, c'est amusant parce que vous l'avez dit, ça se passe dans un camping, évidemment. On pense à camping, même si les deux films n'ont rien à voir, mais comment vous êtes positionné, vous, par rapport à cette série camping de Dubosc et par rapport à votre film?
Bah, ce qui est amusant, c'est que, à vrai dire, j'y ai jamais véritablement pensé. Enfin, mes références étaient un peu ailleurs, on va dire. Et c'est ma scénariste, à un moment donné, Catherine Payet, qui m'a avec malice rappelé que l'incident déclencheur du premier épisode de Camping, c'est une panne de voiture. Et il y a effectivement dans l'abordage aussi une panne de voiture. Bon, j'ai pas pensé, hein. C'est un peu une coïncidence. C'est aussi peut-être parce que c'est quelque chose de très simple, hein. C'est un ressort narratif très, très simple et très efficace de bloquer des personnages quelque part pendant quelques jours. Mais en effet, je pense que c'est peut-être le seul point commun entre les deux films. en dehors du décor et du lieu, voilà.
Et il faut aussi dire que vous avez pris des acteurs pas encore professionnels ou en tout cas en train de se former et qui sont assez formidables dans le film.
Oui, bah c'est vrai que le vrai point de départ du film, mais que je me suis attaché tout au long du travail à faire oublier, c'est-à-dire que je pense que quand on voit le film, on n'y pense plus du tout, mais le point de départ a été une commande du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique d'écrire un film pour des jeunes comédiens, des jeunes comédiennes de théâtre qui donc faisaient leur premier pas devant la caméra dans ce film. Et donc le film a vraiment été écrit pour ces acteurs-là et je me suis beaucoup nourri de leur personnalité. Enfin, c'était un peu l'idée de ce film, c'est vraiment écrire sur mesure des personnages de jeunes gens pour ces jeunes comédiens et profiter de tout ce qu'ils pouvaient apporter au film, quoi, de fraîcheur, d'idées, parfois d'improvisation et puis aussi tout leur bagage de vie, quoi, parce que c'est des jeunes gens qui en plus d'être comédiens ont vécu des choses et qui les injectent dans le film, en tout cas dans leur personnage.
Et ce film, c'est donc À l'abordage, qui est en salle depuis mercredi dernier, que je conseille à nos auditeurs. C'est positif, ça fait sourire et on regarde ce film. C'est une autre version du camping, mais tout aussi agréable. Merci beaucoup, en tout cas, Guillaume Braque, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Clap.
Eh ben, merci beaucoup à vous, Mathieu.
Et puis, j'ai envie de vous souhaiter de bonnes vacances, du coup, si vous en prenez.
Absolument. J'en prendrai quelques jours après la sortie.
Bon, nous, on se retrouve dans un instant pour ouvrir notre séquence Les films de ma vie. Aujourd'hui, c'est Chiara Mastroianni qui a accepté de répondre à notre questionnaire de Proust version cinéma. Restez avec nous, à tout de suite. Europe 1.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. On est maintenant en compagnie de Chiara Mastroianni. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là, puisque vous faites la voix de Daniela. C'est la maman de Luca dans le dernier né des studios Pixar, que l'on peut visionner sur Disney+. Je ne vais pas résumer l'histoire, mais simplement dire que c'est un film d'animation avec une vraie poésie, des questions de monstres marins, d'amitié, de Vespa aussi, pour ceux qui aiment ça. Mmh. Déjà, pourquoi vous avez accepté de faire la voix de cette maman? Est-ce que c'est la Dolce Vita qui vous a...
c'est vrai que c'était un rêve de faire une voix pour un dessin animé. J'avais eu l'occasion de faire un film que j'adore, qui est Persepolis de Marjane Satrapi, mais qui est un film d'animation, mais qui n'est pas traité comme un film d'animation pour ce qui est des voix, c'est-à-dire qu'on est dans un truc très réaliste pour le jeu des acteurs. Et c'est vrai que ça m'amusait beaucoup, l'idée de me retrouver dans quelque chose où dans un personnage, si vous voulez, où il n'y a pas de limite de réalité. Et oui, c'est ça. En fait, il n'y a plus de principe de réalité. À partir du moment où vous faites un monstre marin qui se transforme pour aller sur Terre. Bon, du coup, il n'y a plus de... Enfin, tout est possible. Et ça m'amusait beaucoup. C'est vrai que j'ai souvent vu ces images où on voit les acteurs faire les doublages et s'éclater et tout ça. Et je me disais, j'aimerais bien. Et donc, j'étais très, très heureuse quand ils m'ont appelée. Parce que c'était une espèce de vieux rêve comme ça qui prenait forme. Et puis... je dois dire que quand j'ai vu le film, j'étais vraiment impressionnée par cette sensation de réalisme absolu du village, du comportement des gens. Enfin, ça me rappelait des endroits où j'étais allée moi-même quand j'étais petite, quoi.
On pourra aller où on veut, faire ce qu'on veut, mais toujours ensemble. Pour nous, le plus important, c'est de rester solidaires.
Solidaires.
Toucher l'amour.
Ça va être le plus bel été de toute notre vie. On ira décrocher les étoiles. On fera le tour du monde. Mais à une condition. Personne ne doit le savoir.
On y va pour notre questionnaire ?
Oui, pardon.
Votre premier souvenir de cinéma ?
Eh bien, je crois que c'est Bambi. Je pense que c'est le premier. Et on m'a fait sortir avant la fin, ou d'ailleurs très peu de temps après le début, je pense. J'étais traumatisée. Ouais. Traumatisée. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu en entier, hein, Bambi, toujours pas. Hein.
Comme beaucoup d'enfants.
C'est très étrange comme choix de l'histoire, Bambi, franchement.
Bambi, vite, les fourrés. Maman ? Maman !
Votre meilleur souvenir en salle ?
Oh non, mais j'en ai pas qu'un.
Il faut en trouver un.
Bah attendez, il y a les films où on est allé parce que comme ça on peut embrasser un garçon pendant le film quand on est ado. Les films qu'on a aimés parce qu'on a aimé les films. Il y a tellement de raisons d'aller au cinéma.
Là, si je vous dis comme ça, celui qui vient.
E.T. peut-être. C'est tellement injuste, on peut pas en choisir qu'un, ça dépend de l'âge qu'on a à ce moment-là. Enfin, vous voyez, en plus, je vous dis E.T. alors que j'ai pleuré les trois quarts du film, donc je sais même pas, je vais être complètement maso de vous dire E.T. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, je dois dire que j'étais évidemment au cinéma très frappée par les choses, la guerre des étoiles, tous ces trucs-là. Aujourd'hui, ça paraît étrange de dire ça, mais moi, j'avais eu des trucs de Spock, tous ces trucs-là, les mecs en pyjama à la télé, mais d'un coup, on passait à un cran au-dessus, vous voyez, donc c'est tous ces films-là, mais aujourd'hui, je vous dis ça, et peut-être dans deux heures, j'aurais dit autre chose, donc c'est très difficile pour moi de choisir.
Alors, votre pire souvenir en salle ?
Bah, Bambi.
Encore lui ?
Ah bah oui, non, ça c'est... Je vais écrire aux réclamations. Oui, non, Bambi, atroce. E.T. un peu atroce aussi, parce que j'ai commencé à pleurer dès le générique du début, quand il est poursuivi et qu'on ne voit pas les corps, on voit juste les jambes des adultes qui poursuivent la petite créature. C'était fini, j'étais en larmes. Et c'est la première fois, l'unique fois, où je suis allée au cinéma avec mon père et ma mère, qui étaient bien séparés depuis très longtemps à l'époque. Et ils ont commencé à s'engueuler en début de film parce que moi, je pleurais. Donc mon père perdait tous ses moyens. Il était affolé, il disait à ma mère qu'il fallait me sortir. Et ma mère, qui est beaucoup plus dure, elle disait « Non, il faut qu'elle tienne, on va aller au bout du truc. » Et du coup, l'enjeu, c'est plus devenu E.T., c'est devenu la dispute entre les deux, et moi, j'étais au milieu. Et donc, j'ai des souvenirs assez mitigés de cette projection. Mais en même temps, j'adore le film.
film que vous aimez, mais vous avez honte de l'avouer.
Alors moi, j'ai pas du tout honte, mais peut-être je devrais, parce que des fois, je le dis, on me regarde, mais moi, j'avais à l'époque, donc sous réserve qu'aujourd'hui, mais moi, je me souviens que j'avais adoré Footloose.
Ah oui.
Et mais à l'époque, c'était pas du tout honteux d'aimer Footloose. Et puis, vous savez, la honte à mon âge, c'est quelque chose de très relatif.
Il est tard.
Oui.
Il me paraît difficile d'imposer un couvre-feu à tous les jeunes de la paroisse quand je n'arrive pas à le faire respecter sous mon propre toit. Avec qui étais-tu ?
Reine McCormick.
Je ne veux plus que tu le revoies.
Pourquoi ?
Parce que c'est un garçon peu recommandable.
J'étais pas en train de voler, j'étais pas en train de jouer, j'étais pas en train de danser ni de lire des livres que tu m'as interdits. Je suis en retard.
Ariel, je ne sais pas ce que je vais faire de toi.
Mais tu ne feras rien de moi, papa. C'est comme ça, que ça te plaise ou non.
Footloose, c'est déjà pas mal.
Vous trouvez, c'est déjà... Oui, c'est vrai que j'ai vu la tête de mes enfants qui l'ont vu il n'y a pas longtemps. Quand je leur ai dit que j'étais amoureuse de Kevin Bacon à l'époque, ils m'ont regardé comme ça, très troublée.
Quel est le film qui vous a fait le plus rire, Cara Mastroianni ?
Je dois avoir un ex aequo, à mon avis. Père Noël est une ordure, Bronzé fond du ski, Roi du patin, avec Will Ferrell. Je suis très très fan de Will Ferrell.
La passion, la puissance. Bienvenue dans le monde du patinage artistique de compétition.
Vous serez dépouillé de vos médailles.
Quoi ?
Et banni du patinage individuel masculin pour le reste de votre vie.
Maintenant, deux rivaux vont allier leurs forces.
Qu'est-ce que vous avez qu'aucune des autres équipes n'a ?
Des bagages d'entrejambes assortis ?
Vous voyez, c'est assez éclectique.
C'est vrai. Et le film qui vous a fait le plus pleurer ?
E.T., hein, pardon, j'ai beaucoup pleuré. Oui, mais forcément, c'est lié.
C'est lié.
au moins, je suis cohérente dans mes névroses. Kramer contre Kramer. Et puis, vous savez, parfois, ce n'est pas les films, c'est des acteurs. Par exemple, j'ai un souvenir d'Emmanuel DeVos dans un film d'Arnaud Desplechin qui s'appelait « Comment je me suis disputée ». Rien que de vous l'évoquer, j'ai la gorge qui se serre. Il y a une scène où elle est seule face caméra. Et elle lit une lettre d'adieu à son mec qui lui a brisé le cœur, et c'est incroyable.
Paul, tu n'es pas là, mais souvent, il me semble que ton absence me chuchote dans le creux de l'oreille. Ça me tient compagnie. Et ton absence me demande, Esther, où est-ce que je suis ? Où est-ce que j'ai été vraiment moi, moi-même, celui que je suis vraiment ? Je suis tellement perdue que je n'arrive plus à me retrouver.
Parfois, ça tient à une alchimie entre acteur, personnage. Mais là, vous me lancez, je ne m'arrête plus. Hein. Vous comprenez maintenant pourquoi, quand vous me dites un film, je ne peux pas.
Je vous y arrivais pas.
J'y arrivais pas.
Alors, un dialogue de cinéma que vous connaissez par cœur.
Oh, je suis nulle pour ça. Ça serait peut-être un truc d'un. C'est tous les Seklug et tout ça, tous les trucs du Splendid.
Oui, entrez dans la maison du bon Dieu.
Attention, attention, c'est très chaud. J'ai réussi à le récupérer, ça sort du four, c'est brûlant.
Oh, deux desserts, c'est une bûche ?
Non, c'est Klug.
Dites-moi, monsieur Preskovic, ce n'est pas le même Klug que tout à l'heure.
Ah, c'est parce qu'il a changé, je l'ai colmaté avec les spots.
Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable ?
Ah oui, c'est vrai, on croirait une boule puante.
Vous savez, il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable.
Mais c'est parce que c'est très chaud. Les spots fermentent à la bicuisson, les odeurs s'exhalent.
Ah oui, comme une fosse septique, quoi.
Oui, en réfléchissant, moi je suis grasse comme un loukoum. Alors, je vais m'abstenir.
Quand ça sent très fort, en général, c'est très bon.
E.T. téléphone maison.
On y revient.
Parce que moi, c'est pas sujet, verbe, complément, donc c'est moins dur à retenir.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre.
Ah, La vie aquatique de Wes Anderson.
Ah mmh. Parce que la famille, les couleurs...
La famille, les couleurs du sous-marin, Kate Blanchett, Bill Murray, tout quoi. Wes Anderson, quoi. Il y a tout ce qu'il faut.
Le Belafonte, le vaisseau mère de l'équipe Zissou. Un groupe de spécialistes en plongée sous-marine, d'aventuriers, de réalisateurs de documentaires.
Moteur.
Mené par l'océanographe de renommée internationale, le commandant Steve Zissou, qui connaît parfaitement tous les mystères de la vie marine.
Faites bien attention, il y a des sangsues. Vérifiez que vous n'avez pas de sangsues. Personne n'a été attaqué, je suis le seul. C'est quoi cette histoire ?
Mais il reste une forme de vie que le commandant Zissou connaît très peu.
Alors, il paraît que tu es mon fils, c'est ça ? Je veux que tu rejoignes l'équipe Zissou.
La réponse est oui.
Bah, il y a intérêt. Je vais te commander un bonnet rouge et un slip de bain. How ? Ce sera l'aventure la plus ambitieuse de l'équipe Zissou à ce jour. Je vais passer la nuit à me saouler la gueule et dans 10 jours, partir à la recherche du requin qui a mangé mon ami et je le tuerai.
Mais quel serait le but scientifique de ce massacre ?
La vengeance.
La plus belle scène de cinéma, selon vous?
Il y a certaines scènes de la nuit du chasseur, je pense, avec les enfants, elle, quand elle est sous l'eau, morte, avec ses cheveux, comme ça, comme des algues. Paris, Texas, Nastassia Kinski, de l'autre côté de la vitre, comme ça, toute seule, perdue. Des films de Cassavetes, une femme sous influence. La scène de repas où Gina Rowlands est complètement à l'ouest. Et il y a tous les gens qui travaillent avec son mari qui sont là. Et lui, après, il l'engueule parce qu'il trouve qu'elle lui a foutu l'un ou deux. C'est difficile d'en choisir qu'un. Oui, je pense que pour moi, une des plus belles scènes, ce serait dans un film de Cassavetes avec Gina Rowlands. Ouais, je pense.
C'est ça. Voilà.
Je voulais seulement être gentille.
Marteau.
J'adore tes amis.
Je sais.
Je suis chaleureuse, je...
Je sais tout ça.
Je ne suis pas une de ces pins beiges que tu aimes tant, qui vous regarde de haut. Boum, boum, ça vous regarde tout le monde de haut. Oh, oh, comme c'est gentil à vous. Oh, très touchée. Oh, je ne veux pas que ces garçons se sentent reçus, je veux qu'ils se sentent... Moi, j'aime ces garçons, je les aime vraiment. J'aime tous les amis que tu ramènes chez nous et...
Je sais tout ça.
Je veux que ces hommes se sentent bien chez moi. Je veux qu'ils se sentent... Ils restent tous assis, la planter comme des mouches.
Mais qu'est-ce que t'as à nous casser les pieds enfin, quoi? Tu n'as rien fait de mal.
Ça me dérange pas que tu sois timbré.
Nicky, dis-moi juste. Nicky, n'aie pas peur de me faire souffrir. Dis-moi ce que tu attends vraiment de moi. Quelle femme tu veux que je devienne?
Et pour finir, Cara Mastroianni, quelle est la bande originale qui a le plus marqué votre vie?
Je pense que celles qui m'ont peut-être le plus marqué aussi, parce que c'est quand j'étais vraiment jeune et tout ça, et que c'est par lui beaucoup que j'ai aimé le cinéma tout d'abord, c'est Hitchcock. C'est Bernard Herrmann, je pense. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Il y en a une particulièrement ou...
La musique de Sueur Froide, je pense. Ce côté dramatique, d'ailleurs, c'est indissociable des films d'Hitchcock, les musiques de Bernard Herrmann. Mais c'est l'enfer d'en choisir qu'un.
14h-15h sur Europe 1, Clap.
Vous en êtes pas mal sorti. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu.
Merci à vous.
De
non,
questionnaire.
Non, c'était un plaisir.
Et nous, on se retrouve dans la suite de Clap dans un tout petit instant.
Ah non, dans les trucs qui font rire aussi, il y a les Monty Python.
Eh ben voilà, les Monty Python. Voilà. Rajoutez une extrémiste. On se retrouve dans un instant. Le temps d'accueillir mes collègues critiques. On va débattre des films en salle. Et j'invite nos auditeurs donc à aller découvrir Lucas sur Disney+. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et j'accueille maintenant dans le studio de Clap nos camarades critiques. On va vous dire ce qu'il faut aller voir en salle ou pas. Qui sait, avec aujourd'hui autour de la table Thierry Chaise de Première et Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
On va parler de Kaamelott qui est donc sorti mercredi dernier. Très attendu, de Bonne Mère, le film de l'actrice Afzia Herzi qui a d'ailleurs été récompensé à Cannes. On parlera aussi de Bloody Milkshake et de Spiral. C'est le saut numéro 9 des films d'horreur, donc vous savez, l'été, il y en a traditionnellement pas mal qui sortent. Mais à tout seigneur, tout honneur, commençons donc par Kaamelott, premier volet de la nouvelle trilogie au cinéma réalisée et incarnée notamment par Alexandre Astier.
Où est Arthur Pendragon?
Un gars pas bien grand, blanc comme un cul.
Oh, ça me dit rien.
Non, commencez pas, je suis absolument pas roi, il n'y a pas besoin de se lever. Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde au cas où quelqu'un approche.
Approche sur le chemin?
Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde.
Et s'il y a personne qui approche, on revient.
Non, vous montez la garde.
Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour »
Des fois que vous redeveniez roi.
Quoi?
Oui, c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein. Ça...
Voilà, vous avez reconnu évidemment cette écriture signée Alexandre Astier. Alors on va faire très attention parce que le moindre spoil nous vaudrait une sentence terrible de la part des fans de Kaamelott. Simplement vous dire que le tyrannique Lancelot du Lac règne, grâce notamment à l'aide de ses mercenaires saxons, dont Sting, que vous découvrirez, il règne sur le royaume de l'ogre, sauf que, la résistance s'organise et qu'Arthur, Arthur Pendragon donc, fera peut-être son grand retour, même s'il n'en a pas très très envie, c'est le moins qu'on puisse dire, pour éventuellement fédérer cette résistance et faire tomber Lancelot pour que la paix revienne sur cette île de Bretagne. Je vous entends vous marrer, j'en déduis, Thierry Chaise, que ça vous a plu ?
Bah, la bande-annonce m'a beaucoup plu.
D'accord, le
parce
film...
Parce que ce film-là,
voilà.
Ce film-là bon. Me plaît énormément. Quand, moi, j'aime, je ne suis pas un fan éperdu, mais j'aime vraiment la série. J'aime cet humour. Et alors, ce qu'on a entendu là, c'est tout ce que j'aime dans le film. Le problème, c'est que comme on est dans un film, on a l'impression qu'il faut faire sérieux. On a quitté les habits du vendredi, on a mis un petit smoking, et là, toute la partie plus sérieuse, plus héroïque fantasy, plus voilà, on passe du petit...
Plus gros moyen, finalement.
Plus gros moyen, moi, je dois avouer, m'a un peu ennuyé, et surtout, je dis, allez, reviens faire des blagues. Il y a des personnages qui apparaissent et disparaissent. Ah, c'est dommage, j'aurais passé plus de temps. Et il y a surtout, moi, j'ai l'impression de voir, en fait, le premier épisode d'une longue saga, où donc... on prend du temps à me présenter 48 000 personnages et peut-être que le deuxième me plaira.
Oui, non. Parce qu'il faut préciser que c'est donc le premier film, ouais. En principe, si ça marche, mais j'ai peu de doute,
oui,
d'une
moi non plus.
Trilogie. Fabrice Leclerc.
Alors, moi, j'ai plutôt à adhérer. Je ne suis pas du tout fan de la série. Je vous avoue, j'en ai vu des épisodes, évidemment, mais j'étais pas grand fan. Moi, ça m'a plutôt plu. J'aime bien cet humour à la Monty Python. Il en manque un peu, je suis tout à fait d'accord. Il y a des moments où il n'y a pas d'humour et où on rigole moins. Mais il y a quand même une envie, moi, je trouve, de faire du cinéma. Il y a une mise en scène très hommage à Spielberg, que d'ailleurs assume totalement Alexandre Astier. Il y a une musique totalement hommage à John Williams. Et bon an,
composé
mal an...
Composé par Alexandre Astier.
Il est compositeur à la base. Bon an, mal an, moi, je ne me suis pas si embêté que ça. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Il y a des guest stars absolument étonnants. Celle de Sting, c'est quand même quelque chose.
Un casting, ma foi. Ouais,
et voilà, non, pour un grand film populaire français d'été, franchement, ça vaut vraiment le coup.
Il faut préciser que nos consoeurs ou confrères qui sont fans de la série nous ont dit que c'était jouissif, parce qu'ils ont retrouvé tout un tas de références.
Ouais.
Moi, je suis un peu comme Fabrice et Thierry. J'aime bien la série, mais j'avoue que j'ai pas les. Je crois que c'est 9 saisons en tête et je les connais pas par cœur.
Non,
et
puis c'est voilà. Bien de le voir comme ça de manière indépendante.
C'est un divertissement agréable pour l'été. On aura l'occasion aussi de reparler, par exemple, d'OSS qui sort cet été. Ouais. Voilà, il y a des films français en salle cet été. Voilà ce qu'on pouvait dire de Kaamelott. On va changer d'univers et même d'échelle de film, si je puis dire, pour débattre maintenant de Bonne Mère, deuxième film de l'actrice et réalisatrice Avzia Herzi.
Tu restes au lit, j'ai besoin de toi, maman.
Ça va aller, mon fils.
Ah, il est là, le gros, là. Je peux pas me le voir,
ça
me dégoûte.
Ça va, mon. Je viens d'arriver.
Et il était pas en cours, ton fils. C'est un qu'il enchaîne, hein. C'est un gros mytho, hein.
Vous allez pas me casser la tête, là, par
j'étais
contre.
J'étais à l'école, maman.
Mais pourquoi tu la manipules comme ça, voilà. Tiens, maman, c'est pour payer l'avocat.
C'est pas d'argent haram, ça.
Assure.
Faut jamais me faire rentrer de l'argent haram chez moi. Ça va aller. Tant que je suis debout, je resterai solide.
La Bonne Mère, c'est évidemment le surnom donné à Marseille, mais c'est aussi le surnom que l'on pourrait donner au personnage principal qui s'appelle Nora. C'est une mère de famille d'une cinquantaine d'années, voilà, qui alterne entre son boulot, elle nettoie des avions, les transports, l'éducation de ses enfants. Et justement, son grand-fils est incarcéré pour le braquage d'une station-service. Il a des petites chances de pouvoir sortir de prison, mais pour ça, il faut une nouvelle fois payer l'avocat, ce qui est évidemment un sacrifice financier énorme pour Nora, qui était à deux doigts de pouvoir se refaire les dents. C'était son rêve. Ça, c'est la trame, l'histoire, entre guillemets, du film, qui est aussi et surtout... le quotidien de cette mère rayonnante, c'est une actrice non professionnelle, comment ces mères se battent au quotidien pour subvenir aux besoins de leurs enfants, pour essayer de les élever le mieux possible dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Je disais deuxième film d'Avzia Herzi, Fabrice Leclerc convaincu, récompensé à Cannes dans la catégorie Un certain regard.
Tout à fait, quelle tendresse ce film, mais quelle tendresse et quelle réalisatrice Avzia Herzi, qu'on a connue actrice, qu'on a vue débuter et qui est en train de se... réalisée totalement dans la mise en scène. Elle ne joue pas dans celui-là. Il faut savoir que ce film-là, en fait, ça devait être le premier. Et pas « Tu mérites un amour ». Les tournages ont été inversés. C'est extrêmement touchant. C'est une chronique d'une famille. Il y a des personnages outrés, mais des personnages outrés comme dans la vie. Et surtout, mais quelle tendresse, quel amour et quelle façon elle a de filmer à travers les portes, derrière une vitre. Toujours extrêmement retenu, extrêmement timide. C'est un très, très, très beau film.
Je souscris. Thierry Chaise.
Ah ouais, j'ai trouvé ça en ballon. C'est-à-dire que j'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans Tu mérites un amour.
Qui était Tu mérites un amour, dans mon souvenir, un petit peu moins de moyens, petit peu, voilà, qui était vraiment un premier film. Et là, on a l'impression que déjà dans le deuxième, c'est...
Elle n'a pas perdu l'énergie.
Exactement.
Ouais. Mais elle rajoute, comme le disait Fabrice, des temps de pause, des temps où on ne parle pas, où on filme, où on montre. Et vraiment, ce mélange se fait en totale harmonie. son casting est fait que de non-professionnels. Il n'y a pas une faute de goût.
La mère est extraordinaire.
La mère est exceptionnelle, mais celui qui a une phrase à dire, là, ouais. Justement, c'est son frère hein, qui a fait tout le casting dans la cité où elle-même a grandi. Et puis, dans tous ces films de cité ou de banlieue, où généralement, les femmes ont une toute petite place, à part Divine, même dans Les Misérables. C'était Jeanne Balibar, la seule femme. De voir d'un seul coup ça par ce prisme-là, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Moi, j'ai été totalement conquis.
Et je précise à nos auditeurs, parce que mon résumé fait un peu misérabiliste, hein, une mère de famille qui nettoie les avions, qui ne peut pas se refaire les dents, que ce n'est pas un film du tout misérabiliste ou plombant. C'est vraiment un film que vous pouvez aller voir cet été et qui va vous en ressortir.
C'est une déclaration d'amour à la famille.
Ah ouais, c'est vraiment extra.
Si on ne vous a pas convaincu avec ça.
Bonne
mère ciné, Abzer Herzi. On a aussi parlé de Kaamelott. Et on va maintenant ouvrir notre séquence sanglante avec Bloody Milkshake.
Sam, on a besoin de tes talents. Quelqu'un nous a volés.
C'est fait.
Changement de programme. Ils ont kidnappé une petite de 8 ans. Je la laisserai pas mourir.
Sam, tu as tué les mauvaises personnes.
Tu n'es plus sous notre protection.
Des messieurs très méchants vont nous attaquer. Il faut qu'on se mette à l'abri.
T'es une tueuse en série ?
C'est plus compliqué que ça.
J'aime bien parce qu'on retrouve l'ambiance du film dans cette bande-annonce. Alors, c'est l'histoire d'une tueuse à gages et de sa fille d'ailleurs. Elle s'appelle Sam. Sa mère Scarlett a dû l'abandonner pour la protéger. Vous découvrirez pourquoi. Sauf que Sam a suivi les pas de maman qui travaille désormais pour la firme. Mais un soir, en pleine mission, dilemme, soit elle va au bout de cette mission, soit elle sauve une petite fille de 8 ans, ce qui évidemment n'est pas sans lui rappeler sa propre histoire. Voilà, qui va la conduire sur les traces de sa maman? Alors, va-t-elle la retrouver? Évidemment, face à elle vont se dresser de très grands méchants. Moi, j'ai trouvé ça, je dois le reconnaître, assez jouissif, avec des scènes qui pourraient être vues comme ridicules, mais qui, moi, m'ont fait rire. Thierry.
Je suis d'accord. Surtout, moi, à partir du moment où ça ne parle pas.
Et c'est assumé.
Je trouve ça formidable. Oui, tout ce qui.
Voilà, tout ce qui parle.
Voilà. Laissons tomber cette histoire. Vous avez résumé le film. Bon, on ne va pas voir ce film. Je pense qu'on ne va pas voir ce film-là pour son histoire. Tout est dit là. Dès qu'il y a ça clignote de partout, toutes les scènes d'action, je les trouve très bien orchestrées. Oui. Avec le second degré qu'il faut, ça marche. Bon, ensuite, hélas, il faut bien, puisque on fait un film, donc faut bien faire des dialogues et des trucs. Bon, là, bon, ça, heureusement, ça ne dure pas très longtemps. Alors, c'est bon, on peut vraiment faire une petite sieste tranquille, ouais. Et on repart parce que le bruit fait qu'on va se réveiller et c'est bien. On refait une petite sieste dès que ça part et on se remet. Et au bout du compte, c'est pas mal.
Il y a une scène d'action dans un cabinet médical, notamment. Qui vaut le détour. Fabrice, Bloody Milkshake.
C'est un peu John Wick qui rencontre Matrix, qui a rencontré les drôles de dames.
Oui,
si vous voyez.
Oui, on peut faire ça.
Non, je souscris totalement à ce que dit Thierry, parce que je souscris toujours totalement à ce que dit Thierry, sauf quand je ne suis pas d'accord. Et là, je suis plutôt d'accord, pas tout à fait d'accord. Non, oui, voilà, c'est un film pour l'été, ça fait vraiment son boulot. Après, faut pas. Oui, on peut vraiment faire 3 siestes pendant le film et se réveiller dans un cinéma climatisé. C'est bien. Très bien.
Franchement,
c'est du cinéma de distraction.
C'est du popcorn movie.
Mais oui, et ça marche et c'est plutôt pas mal.
Bon,
parce qu'il y a d'autres popcorn movies qui sont pas mal. D'ailleurs, on va en parler tout de suite.
Bloody Milkshake. On passe effectivement à Saw numéro 9. Oui, on en est au numéro 9. Je me rappelle quand même de quand j'avais découvert le numéro 1 et la terreur qu'il m'avait
et le 6.
Procuré.
Le saucisse.
Donc le saucisse, voilà. Alors, ce saut est sous-titré Spirale.
Bonjour, lieutenant Banks. Savez-vous où sont vos collègues policiers ?
Jigsaw ?
Je croyais que Jigsaw était mort.
C'est le cas.
Trouve ce type. T'as pas une seconde à perdre.
Comment je vais le coincer si je peux faire confiance à personne dans cette putain de brigade ?
Un imitateur de Jigsaw, ça va pas être facile.
On va retourner toute la ville.
Voilà, et pendant ce court extrait, Thierry nous a dit qu'il se rappelait bien du Saw 7. Voilà, le Saw 7.
On a chacun notre Saw préféré, en fait.
C'est un festival de jeux de mots.
Ouais.
Alors, le résumé, là aussi, je ne vais pas trop vous en dire, si ce n'est qu'une nouvelle
Attention.
Fois, il y a tout un stratagème macabre dans ce Saw. Notre lieutenant s'appelle Zek. Il enquête avec son partenaire sur une série de meurtres au mode opératoire qui rappelle étrangement celui d'un meurtrier qu'ils ont bien connu. Je ne vais pas vous les décrire parce que rien que de vous les décrire, je pense que certains changeraient de radio et puis vous êtes peut-être dans votre voiture avec des enfants. Mais voilà, il y a du gore, il y a du suspense, il y a des rebondissements, il y a une histoire familiale, il y a une histoire d'héritage et il y a une fin qui nous laisse penser qu'il y aura un Saw 10. Est-ce que ça vaut le coup, Fabrice Leclerc ?
C'est quand même un peu le saut dans le vide hein, quand on regarde le film. comment vous dire,
il va toutes me les faire.
moi je oui, j'ai décidé. Oui, ouais, c'est l'été,
c'est l'été, on peut y aller.
Non. Alors, on parlait des popcorn movies, justement, et il y a des popcorn movies qui sont géniaux et qu'on regarde avec un grand plaisir. Ça, c'est tellement vu, revu, et re-revu, et re-revu. Revoyez Seven, plutôt, de David Fincher. Vous verrez le même film, mais mieux fait. Non, bah, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de personnage, tout est capillotracté. Il y a un moment, quand même, où la production industrielle de yaourt au cinéma pour les films d'horreur, faudrait qu'on arrête, quoi. Non, mais franchement...
Rien à sauver ?
Bah...
Thierry Chaise.
Mais si, moi j'ai assez une phrase de Chris Rock,
oula, attention, qui est le, regarde dans ses notes.
Non, qui est le producteur du qui a remis, il a dit « On a tout conservé de Saw et davantage développé la dramaturgie et la psychologie des personnages. »
Voilà.
Malheureusement, on a donc, moi j'ai pas vu, le bon film n'a pas été projeté, malheureusement. Donc, celui que j'ai vu en tous les cas ne correspond pas à ça, puisqu'il y a exactement tout. En effet, vraiment, on peut parler presque de dégueulasserie, ah, moi, oui, je trouve, oui. des scènes où...
C'est la limite du supportable.
Hein. Ouais. La musique.
Parce que dans les premiers sauts, c'était pas aussi gore, pas qu'on avait
mais
très peur.
Mais sauf que comme on est habitué, qu'est-ce qu'il faut faire ? Du sanglant. C'est vraiment une mise en scène douteuse, un jeu. Mais alors tout le monde est au festival de cabot. C'est-à-dire que contrairement au premier saut, la différence c'est qu'il y a des stars. Donc en effet, il y a Chris Rock, il y a Samuel Jackson. Mais on y va. Je trouve ça vraiment fou. Moi, une fois encore, le premier saut m'avait vraiment terrifié. Pris d'effroi et terrifié. Là, je suis dans du grand guignol gênant.
Bon, donc voilà. Entre les deux, on préfère Bloody Milkshake.
Ah non,
si bah oui, forcément.
Bon, c'est Orson Welles à côté. Hein.
Saut numéro 9, ça s'appelle Spiral, Bloody Milkshake. Et dans une toute autre ambiance, Bonne Merde, Avzi Herzi et Kaamelott. Voilà les films dont on a débattu aujourd'hui avec Thierry Chaise de première. Fabrice Leclerc de Paris Match, des beaux magazines que je vous invite d'ailleurs à feuilleter pendant ces vacances. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Clap. Je vous raconterai la grande histoire d'OSS 117. Clap, émission réalisée par Nicolas Baudin, préparée par Marjorie Adelson. Et on se retrouve donc samedi prochain, 14h-15h sur Europe 1. Europe 1.